Voilà. Vous savez que depuis le début de l'année, j'avais choisi plein de paroles pour vous partager l'importance d'être enraciné dans la parole de Dieu. Vous savez que dans notre devise de l'Église, il y a s'enraciner et grandir pour porter beaucoup de fruits. Et cette année, avec les anciens, nous avons réfléchi qu'il faut vraiment qu'on se concentre davantage sur comment s'enraciner davantage par la parole, comment être vraiment pleinement rempli de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons prêché depuis début de l'année l'importance de bien connaître la parole, d'être bien imprégné par la parole de Dieu. La semaine dernière d'ailleurs, je vous avais partagé aussi sur Jephté, qui est un vaillant héros, mais aussi qui connaissait bien la parole de Dieu. Et voilà, sur ce... ce matin, j'aimerais vous partager sur le personnage de Pierre pour mieux comprendre comment lui il a vécu la parole de Dieu. Alors, tout d'abord, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, à partir de verset 16, ou plutôt à partir de verset 14. Si vous avez votre Bible, nous allons tout à l'heure lire verset par verset. Et en attendant, nous pourrions peut-être repenser ce personnage Pierre qui est très important. Quand même, il est quand même un des 12 apôtres de Jésus. Il était même, je dirais, le leader de ce groupe-là. Souvent, Jésus lui posait la question, au lieu de poser à tous les disciples, parce que c'était lui le chef, en fait, le leader de ce groupe. Et c'est à lui qu'il répondait, mais il répondait à tous les disciples aussi. Qui était Pierre? C'était quelqu'un, un pêcheur, mais qui avait un caractère un peu fougueux, très direct, authentique, spontané. Ça, vous le connaissez, si vous connaissez un petit peu la Bible. D'ailleurs, on voit son caractère lorsque les soldats étaient venus prendre Jésus. Seul Pierre avait pris son épée, il a même coupé l'oreille du soldat. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit de ranger son épée, car ceux qui utilisent l'épée mourront par l'épée. C'est quelqu'un qui agit selon son cœur, selon son cœur. Enfin, je dis ça pour embellir un peu. Il réfléchit pas trop, quoi. À ce moment-là, quand il y a un problème, il fonce. C'est quelqu'un qui est assez spontané aussi. On peut bien connaître aussi son caractère lorsque Marie raconte que Jésus est ressuscité. Les disciples entendent et celui qui court en premier, c'est Pierre. Pierre, il court pour aller voir ce tombeau vide. Bon, apparemment, Jean était plus rapide que lui. Il courait plus vite, peut-être. Il est devant lui, mais Jean était un peu hésitant devant le tombeau. Est-ce que j'entre? J'entre pas? Il a un peu peur, peut-être, etc. Et puis, en attendant, Pierre arrive et puis, lui, il n'hésite pas pour entrer dans ce tombeau à la directe pour voir que, oui, le tombeau est vraiment vide. Ouais. C'est quelqu'un qui... Voilà. On peut aussi voir son caractère lorsque, après la résurrection, Jésus donc prépare à manger pour ses disciples, et puis de loin, les disciples reconnaissent Jésus qui est présent sur la plage. Et puis, au lieu d'attendre que le bateau aille jusqu'à la plage, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son manteau, hop, il se plonge, dans la mer pour aller le voir. Apparemment, c'était un bon nageur, comme tous les pêcheurs. Enfin, on voit vraiment son caractère assez spontané, fougueux, etc. Mais ce Pierre change un peu, même beaucoup, après la Pentecôte, puisqu'il devient un homme transformé. Lui qui avait renié Jésus 3 fois, maintenant, après s'être rempli de l'Esprit de Dieu, il prend courage. Il arrive même, lui qui avait peur d'une petite servante qui l'accusait d'être disciple de Dieu, de Jésus, là maintenant, il n'a plus peur. Il arrive même à prêcher devant des milliers de personnes. Prêcher quoi? La mort de Jésus, sa résurrection, la repentance, etc. Et 3000 personnes ont pu se repentir et se faire baptiser. Sa théologie, après, change aussi, après s'être rempli de cet esprit de Dieu. Comment sa théologie change? Au départ, il pensait que ce salut était accordé seulement aux Juifs, ou plutôt en priorité seul pour les Juifs, et sa théologie change avec la rencontre avec Corneille. Et c'est un événement très important pour lui aussi. Et ainsi, il devient non seulement l'apôtre des Juifs, mais aussi l'apôtre de tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Lui, depuis sa première rencontre avec Jésus, il voit en Jésus quelqu'un d'exceptionnel. Jean 1, il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Jean nous révèle que Jésus était déjà avec le Père, dès le commencement, même avant le commencement. Et Pierre aussi savait cette vérité. C'est pour ça qu'il était émerveillé par ce Jésus. Et lors de sa première rencontre avec lui, il était en train de pêcher, fatigué parce qu'il n'avait rien pu pêcher de poisson. Il arrive à rencontrer ce Jésus qui lui demande d'être dans sa barque et pour pouvoir prêcher aux autres. Et ensuite, il prêche. Après avoir entendu sa prédication, Jésus lui dit à ce Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, là il est dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Après avoir entendu cette prédication, il a eu quelque chose. Et sur ta parole, je jetterai le filet. Il obéit à sa parole dès le début. Et puis le Seigneur lui demande de le suivre et il répond, Seigneur, retire de moi parce que je suis un homme pécheur. Ne crains point, dit Seigneur, désormais tu seras pécheur d'homme. En tout cas, Pierre obéit sur sa parole et expérimente un miracle. Voilà donc son première expérience avec Jésus. Ensuite, Jésus, au cours de son ministère, donc il était souvent avec ses disciples, il prêche sa mort sur sa mort et il prêche même qu'on devrait justement manger sa chair, ce que nous venons de faire, et boire son sang. Et ce message passe difficilement aux gens. Les gens ont du mal à comprendre, ils ont du mal à accepter. Et donc beaucoup de disciples l'abandonnent. Et Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et à ce moment-là, c'est encore Pierre qui répond en disant que, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Encore l'insistance sur la parole. Les paroles de la vie éternelle. Oui, c'est toi qui nous permet d'acquérir cette vie éternelle. Je ne te quitterai pas. Alors que lui, au départ, il avait peur de le suivre quand Jésus lui avait demandé. Mais on voit bien cette progression de foi, etc. Maintenant, nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 14. Il est écrit, « Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » Là, on vient d'apprendre que Pierre sait qu'il va bientôt mourir. Jésus lui a révélé qu'il va bientôt mourir. « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Donc, il est en train de dire, je sais que je vais bientôt mourir. Et qu'est-ce que nous faisons lorsque, avant de mourir, on laisse un testament? Et c'est comme s'il laissait son testament à travers ce livre. Il aimerait vraiment que les disciples se souviennent de ces choses, c'est-à-dire cette vérité qui vient de Dieu. Le premier événement qu'il raconte est la montagne de la Transfiguration. À partir de verset 16, il dit, ce n'est pas, en effet, en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il est en train de dire que je ne vous raconte pas des mythes ou des contes inventés. Non, j'ai enseigné à vous la vérité, car ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Je continue la lecture à partir de versets 17 et 18. Car il est reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Là, il rappelle l'expérience qu'il a connue avec le Seigneur sur cette montagne de transfiguration. Vous savez qu'il était un des disciples préférés de Jésus. Et à un moment donné, Jésus a pris à part Jean, Jacques et Pierre pour le prendre avec lui, pour monter sur cette montagne et pour qu'il voie cette gloire qu'il peut se manifester. Et ils ont vu effectivement la gloire, la grandeur du Seigneur à ce moment-là. Ils ont vu vraiment Jésus se métamorphoser. Il y a eu vraiment une levée de voile de son humanité et la transformation de son apparence. La lumière de la gloire de Christ, vraiment qui venait de l'intérieur de son être, ressortait de son visage, de ses vêtements. Je dirais même que c'était une préfiguration de la gloire du royaume à venir. Elle était destinée à encourager ces hommes, donc Pierre y compris, qui allait justement subir des persécutions terribles par la suite. Dans cet événement de transfiguration, non seulement il a vu Jésus transformer et montrer sa gloire à tous, mais il a vu aussi deux personnages très intéressants. Il y avait à côté de Jésus Élie et Moïse, qui représentaient la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. Et ces deux personnages qui représentent l'Ancien Testament discutaient avec Jésus. Ces deux personnages, non seulement donc discutaient, même je dirais sous l'autorité de Jésus. Et ces trois disciples, Jean, Pierre, Jacques, qu'est-ce qu'ils voient encore? Qu'est-ce qu'ils remarquent encore? En fait, ils entendent un bruit, une voix qui entend des cieux et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » dans Matthieu 17, « Celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » C'est une proclamation de Dieu de Père qui parle aux disciples en disant que il est en train de révéler, Dieu le Père est en train de révéler que ce Jésus est son Fils bien-aimé. Ce Jésus est le Fils de Dieu, son bien-aimé. Et lui-même recommande, il leur recommande de l'écouter. Ce qu'on peut remarquer dans cet événement, c'est que Jésus, on apprend que Jésus est divin, il est Dieu. Par sa gloire, par l'approbation du Père, on voit qu'il est vraiment Dieu. Sa parole est la parole de Dieu. Jésus approuve, en même temps avec la présence de Élie et Moïse, il approuve l'Ancien Testament, au contraire, et en plus, nous savons très bien qu'il est venu pour accomplir, mais compléter même cette alliance, pour apporter une nouvelle alliance. Donc le Père atteste l'autorité du Fils, etc. Je continue la lecture au verset 19. Ce que les prophètes avaient annoncé s'est accompli sous vos yeux. Là, il est en train de dire que, vous voyez que, en Jésus, Pierre est en train de raconter, en Jésus, les prophéties ont été accomplies. C'est vrai qu'il y a eu plus de 300 prophéties qui ont été réalisées avec l'arrivée de Jésus sur terre. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire que l'Ancien Testament, la Bible même, est vérité. La Bible est juste. Nous savons très bien que la Bible se compose de 66 livres, dont écrits par plus de quarantaine d'auteurs différentes, en 16 siècles d'histoire. Et ce qui est encore étonnant, c'est que dans cette Bible, il y a une cohérence interne qui est vraiment exceptionnelle. Nous avons vu aussi la semaine dernière, en étudiant Parcours Alpha, combien la Bible est vraie. Hein, c'est vrai que si on compare les manuscrits, il y en a des milliers qui peuvent vraiment prouver de manière assez savante que c'est vérité. Dans cette Bible, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires, des héros, de la foi qui sont décrits, mais pas seulement des belles histoires. Les erreurs commises par ces héros sont aussi décrites dans cette Bible, même des histoires assez honteuses à raconter. Pour tout simplement pour que nous puissions retenir des leçons. En général, vous savez que dans le monde, on essaie de toujours cacher les événements qui nous font honte. Par exemple, dans les annales militaires en Égypte, il n'y a aucune défaite qui est décrite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils veulent cacher ce qui est honteux. Enfin bref, là, verset 19 est en train de raconter que la Bible est vraie et juste. C'est pourquoi nous croyons d'autant plus fermement à leur message. C'est pourquoi, oui, ça a été réalisé à travers Jésus-Christ. Tout le message qui a été annoncé a été réalisé par Jésus-Christ. Et maintenant, donc, d'autant plus, nous pouvons donc croire, mais aussi vous feriez bien de l'étudier attentivement. L'étudier attentivement. C'est important d'étudier ces paroles qui peuvent nous enrichir. Car il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. On voit cela, quand on lit cela, ça nous rappelle la parole de Psaume 119-105, où il est dit, la parole est ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière qui apporte la clarté dans l'ombre. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit dans le brouillard. Souvent, en Lorraine, il y a beaucoup de brouillard. J'ai remarqué, plus qu'en Alsace. En Alsace, il y a moins de brouillard, mais... Non ? Quelqu'un dit non ? Ah ben, moi, en tout cas, quand je fais aller-retour de Paris jusqu'ici, quand je traverse la Lorraine, il y a beaucoup, beaucoup de brouillard. D'après mes expériences personnelles, en tout cas. C'est pas scientifique. Et puis, ben, c'est sûr que quand il y a vraiment un brouillard très sombre, je suis obligé d'allumer pas seulement le feu de croisement, mais aussi le feu de brouillard devant, pour éclairer davantage. Et même le feu de derrière, comment ça s'appelle ? Le feu de brouillard de derrière, voilà. Tout ça pour mieux conduire, pour éviter des accidents, pour avoir plus de sécurité. De même, c'est vrai que vivre dans ce monde, c'est comme si nous vivions dans ce brouillard. Parce qu'il y a tellement d'informations qui sont fausses, et nous qui devrions justement tenir ferme à la vérité, nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin de recevoir le discernement du Seigneur. Et pour avoir ce discernement, nous avons besoin d'approfondir cette parole, jour après jour. C'est pas parce que vous avez allumé votre phare il y a quelques secondes que vous allez être sain et sauf après, si vous éteignez. C'est fini. Hein, vous ne pourriez pas conduire. C'est important d'être persévérant jusqu'au bout. Et non seulement il faut la lire, mais il faut la méditer. Et aussi l'appliquer dans notre vie. Ma maman encore m'a téléphoné. Mon fils, est-ce que tu as commencé ta lecture de la parole de Dieu ? Alors j'ai dit, écoute maman, je suis pasteur quand même. Hein. Elle me dit, oui mais tu fais pas assez. Ah bon ? Pourquoi ? Tu sais, depuis le début de l'année, j'ai déjà lu deux fois la Bible. Ah, oui, oui, tu m'as bien dépassé, effectivement. Mais j'ai dit, j'ai donné comme excuse, tu sais, il faut méditer, hein, c'est pas seulement lire. Mais c'est vrai, il faut non seulement lire, parce que tout le monde peut lire, mais il est aussi important de méditer. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire ? C'est ça, en fait. Hein, souvent, certaines personnes disent que c'est Réma, c'est en hébreu. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers cette lecture ? Et ensuite, comment on peut l'appliquer dans la vie réelle ? Parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Comment on peut découvrir ce plan de Dieu à mon égard? C'est ça qui est le plus important. Je continue la lecture. Versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire, la parole a été laissée pour qu'on comprenne la vérité. Souvent, les sectes piochent certains versets sans le contexte et à partir de ces versets piochés, ils arrivent à créer leur religion ou même leur idéologie. Mais c'est pour ça qu'il est important de voir dans l'ensemble. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'est effectivement, cette parole, ce n'est pas les hommes qui ont écrit, bien sûr ce sont les hommes, mais inspirés de la parole de Dieu, inspirés de l'Esprit de Dieu. Dans 2 Timothée 3, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vais conclure. J'aimerais quand même vous rappeler que Pierre a écrit la première lettre pour enseigner comment gérer la persécution, les épreuves, puis le deuxième livre pour enseigner comment faire face à l'hérésie qui sont autour de nous. Aujourd'hui aussi, il y a tellement d'épreuves qui sont là, et il y a tellement d'hérésie ou de fake news, ou etc., etc., pour nous aveugler. Et donc, nous avons besoin de discerner ce qui est vrai ou faux, ce qui est bon pour nous. Et encore une fois, cette parole nous aide à discerner un faux enseignement, un faux message. Avant le verset 14, on voit Pierre parler d'un athlète. En fait, ce matin, on a beaucoup parlé de la persévérance aussi. Hein? Oui, nous ne devons pas négliger cet exercice d'être imprégné, d'être enrichi par la parole de Dieu. Comme un athlète, nous devons s'exercer, s'entraîner jour après jour, spirituellement, pour perfectionner notre foi, pour que cette foi soit vraiment réelle. Il faut que ça transparaisse dans notre comportement et justement, ça c'est l'application de la parole que nous avons apprise. Et nous savons très bien que Jésus un jour revient. Et comment préparez-vous cette fin du monde qui arrive? Est-ce que nous veillons à ce que notre niveau spirituel s'élève de jour en jour? Ou tout simplement, on se mélange avec les gens du monde en faisant des compromis. En tout cas, vraiment, que je nous invite à être s'enraciner davantage dans la parole de Dieu. Car la parole permet de veiller de manière plus sereine, sans confusion. Car la parole est claire. C'est une lumière qui éclaire la vérité, qui permet aussi de voir et d'entendre la voix de notre Seigneur. Que le Seigneur nous inspire, nous aide dans cet exercice d'un athlète spirituel. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, car cette parole a été attestée par Jésus, par le Père, par le Saint-Esprit. Cette parole devrait être notre nourriture spirituelle chaque jour. Cependant, pardon pour toutes les fois où nous avons négligé, délaissé, oublié d'être enrichis par toi. Plus, c'est vrai, de quoi nous nourrissons-nous chaque jour? Avec quelles informations? Avec quelle nourriture spirituelle nous nourrissons-nous? Nous voulons vraiment, Seigneur, te prier pour que tu puisses intervenir et que nous puissions, recevoir cette parole qui nous transforme, qui nous façonne davantage. C'est vrai, Pierre, au départ, n'avait pas forcément toute la connaissance. Il était, au niveau spirituel, un bébé qui était en train de chercher la grâce. Et c'est vrai qu'il a vécu beaucoup d'expériences avec toi. Mais une fois qu'il a été rempli de Saint-Esprit, une fois qu'il a été rempli de ta parole, il a été vraiment un homme efficace. Un homme qui était toujours à ton écoute, qui savait ta volonté. Il savait même que la mort était proche de lui, puisque c'est toi qui lui avais révélé cet événement. Oui, lorsque nous sommes à ton écoute, tu nous révèles beaucoup de choses. Tu nous parles vraiment. Ce n'est pas une fable, la Bible. Ce n'est pas une mythe, quelque chose qui a été imaginé par certaines personnes. Non, c'est une parole vivante qui nous permet de grandir. Et vraiment, Seigneur, que tu nous invites à, enfin, que tu nous aides à nous attacher à toi davantage avec cette parole. Donne-nous cette motivation de prendre des résolutions pour pouvoir lire cette parole qui nous enrichit. Seigneur, que cette résolution ne dure pas seulement un, deux ou trois jours, mais que ça puisse continuer. Pour cela, nous avons besoin de toi. Oui, accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Amen. C'est le temps des annonces.